France Culture.
On ne se quitte pas sans un nouveau rendez-vous avec l'actualité de ce samedi 22 février. Le journal avec vous, Jeanne Serrin, bonne journée.
Bonjour Nicolas, bonne journée. Bonjour à toutes et à tous. Veille de scrutin en Allemagne pour les élections législatives après une campagne tendue où la guerre en Ukraine s'est imposée parmi les principaux thèmes de division. Emmanuel Macron est arrivé au Salon de l'Agriculture pour inaugurer cette 61e édition. Dans ce journal, nous nous pencherons sur la place de certaines pratiques agricoles ésotériques dans les allées de la Porte de Versailles. Enfin, mieux recycler les pots de yaourt, c'est l'objectif d'une vaste campagne de communication lancée aujourd'hui par les entreprises du yaourt alors que le réemploi de ces contenants reste encore insuffisant. J-1 avant les élections législatives en Allemagne. Les conservateurs de Friedrich Merz restent en tête dans les sondages avec 30% des voix devant l'extrême droite à 20% et le parti social-démocrate du chancelier Olaf Scholz à 15% d'intention de vote. Dans cette campagne, trois thèmes auront surplombé tous les autres, l'immigration, l'économie ainsi que la guerre en Ukraine, Sébastien Baer.
Ce n'est pas anodin, le célèbre Wahl-O-Mat, le quiz en ligne qui aide les électeurs indécis à faire leur choix, débute par la question suivante. L'Allemagne doit-elle continuer à fournir une aide militaire à l'Ukraine? Le sujet divise le pays et les partis politiques. Olaf Scholz, élu chancelier quelques semaines avant le début de l'invasion russe, a promis à l'Ukraine un soutien durable, mais il refuse de fournir les missiles à longue portée Taurus par crainte d'une escalade militaire avec la Russie. Sur le dossier ukrainien, c'est là la principale différence avec son rival conservateur, Friedrich Merz. Le grand favori du scrutin est favorable à la livraison de ses missiles à longue portée pour, dit-il, que la guerre se termine le plus rapidement possible. Quant au pourparlers de paix, pour Scholz comme pour Merz, il est impensable que Moscou et Washington négocient sans l'Ukraine et les Européens. L'AFD, l'extrême droite, intercalée dans les sondages entre les conservateurs et les sociaux-démocrates, demande de son côté l'arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine et souhaite renouer des relations avec la Russie. Si l'AFD obtenait demain 25% des sièges au Bundestag, elle disposerait d'une minorité de blocage, ce qui lui permettrait de peser dans certaines décisions, dans le dossier ukrainien notamment.
Et ce matin, le secrétaire d'État américain Marco Rubio appelle les pays membres de l'ONU à approuver la résolution américaine proposée hier pour la fin de la guerre en Ukraine, résolution qui ne mentionne pas l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Le corps de Shéri Bibas, identifié ce matin après la remise par le Hamas à Israël d'une nouvelle dépouille hier. Ce matin, 6 nouveaux otages israéliens doivent être libérés contre 600 prisonniers palestiniens. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné hier pour la première fois directement le Rwanda pour son soutien au M23 en République démocratique du Congo. Le Conseil exige leur départ immédiat du territoire de la RDC ainsi que le retrait du M23 des territoires dont il a pris le contrôle, Goma notamment et Bukavu, capitale du Sud Kivu, tombée dimanche dernier. Un an après les gaz lacrymogènes et les huées, Emmanuel Macron est arrivé au Salon de l'Agriculture dont la 61e édition s'ouvre aujourd'hui. Le chef de l'État a débuté sa visite par un entretien avec les syndicats du secteur avant une déambulation dans les allées du Salon où cette année encore l'agroécologie occupe une place particulière. Mais le retour aux bonnes pratiques paysannes ouvre aussi parfois la porte à des méthodes pseudo-scientifiques, Célia Gauthier, et parfois même ésotériques.
Certaines sont même mises en avant dans des chambres d'agriculture. Florence Hervé-Marty y donne par exemple des formations de géobiologie, une discipline catégorisée comme une pseudo-science pour ses manques de preuves scientifiques qui promet d'analyser les courants électriques qui circulent dans la terre et dérangent les élevages.
Quand il touche plus l'animal, on a des gains de production de l'ordre de 1 ou 2 litres de lait par vache et par jour. Vous voyez sur le revenu de l'agriculteur ce que ça peut faire. Ou le pareur donc, qui travaille les pieds des vaches passe à peine une fois tous les deux mois au lieu de passer toutes les semaines parce qu'il y a des vaches boiteuses. Enfin, c'est tout un tas de problèmes très techniques, très concrets et très coûteux.
Pour elle, ces disciplines sont aujourd'hui plébiscitées du fait du climat agricole tendu.
Dans une situation de l'agriculture où le revenu est très faible, des petits gains de productivité se traduisent par des gros gains de revenus.
Sans preuve scientifique, les chambres d'agriculture semblent considérer que ces pratiques ne font au moins pas de mal. C'est aussi le cas de la MIVILUDE, l'Observatoire des dérives sectaires. Elle garde tout de même un œil sur certains courants comme la biodynamie, très présente dans le vin et liée à la secte Anthroposophe. Un argument auquel Cyril Gambary, docteur en microbiologie et lanceur d'alerte, ne croit pas.
C'est vrai que c'est bien plus dangereux de soigner son cancer avec des extraits fermentés de gui, comme c'est le cas avec la médecine anthroposophique Par contre, quand vous achetez un vin à estampillé Déméter ou Biodivin, vous financez quand même le mouvement. Chaque année, il y a 100 000 euros qui partent de Déméter, donc le principal label de la biodynamie, vers la Société Anthroposophique Universelle.
Mais le marketing fonctionne, même si le consommateur ne sait pas ce qu'il y a derrière, malgré le cahier des charges contraignant qui demande par exemple l'enfouissement de cornes de vache. 450 domaines viticoles se sont labellisés biodynamiques dans les 10 dernières années.
Et nous reviendrons sur l'ouverture de ce salon de l'agriculture dans notre journal de 12h30 avec notre invité Gilles Laferté, sociologue spécialiste des mondes ruraux. Les grandes entreprises du yaourt, elles, s'unissent pour le recyclage de leur peau et lancent une campagne de communication et d'affichage. Objectif, inciter les consommateurs à jeter ces emballages dans la poubelle jaune. Mais Emeline Bonavent, donner une seconde vie à ces peaux reste encore bien compliqué.
Ils sont fabriqués pour la plupart en polystyrène, une matière encore très peu recyclée parce que l'opération coûte trop cher par rapport au prix final du produit. La majorité des emballages n'est donc pas réutilisée et pour le reste, eh bien, leur avenir n'est pas beaucoup plus clair dans la tête des consommateurs comme Jérôme.
Je sais juste où les déposer, c'est tout. J'imagine qu'on peut peut-être en refaire des pots de yaourt, peut-être d'autres matériaux aussi, j'imagine avec du plastique. Mais je connais pas le détail, j'avoue.
Une confusion compréhensible. Les fabricants de produits laitiers restent évasifs sur l'avenir des pots de yaourt, même sur la campagne de communication. On évoque simplement la fabrication de nouveaux emballages, mais pas si simple pour Pauline de Bravander, responsable plaidoirie et campagne dans l'association Zéro Ouest France, qui défend des politiques zéro déchet.
Les techniques qui commencent à émerger, qui en sont encore au stade de test, en fait, c'est des techniques de recyclage chimique. On va justement essayer de revenir à l'essence même des polymères du plastique, en fait, hein, tout simplement, alors que le recyclage mécanique, on va broyer, on va nettoyer, on va retransformer en un autre matériau.
La technique chimique n'est donc pas forcément meilleure pour l'environnement. Il faudrait mieux œuvrer pour une réutilisation des pots, selon Pauline de Bravander.
Donner une seconde vie aux pots de yaourt, comme le communique cette publicité, ce n'est pas transformer chimiquement l'emballage, c'est effectivement réemployer le même emballage plusieurs fois. C'est ça, la seconde vie. Donc pour nous, ce qui est central, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on investit massivement dans des mauvaises solutions de recyclage, alors que justement la priorité devrait être donnée au réemploi. Ce serait plus pertinent.
Pour l'association, les pots en polystyrène ne devraient déjà plus exister puisque la loi interdit les emballages sans filière de recyclage depuis le 1er janvier 2025.
On termine ce journal avec un mot rapide du temps. La pluie revient sur l'ensemble du pays. Côté température, elle reste élevée ce matin avec 6 degrés à Grenoble, 10 degrés à Rennes et jusqu'à 13 degrés à Marseille.